écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom.
Bienvenue les amis sur Radio Ma'arif, encore un podcast Histoire. La quête continue. Alors, la réflexion qui a mené à l'enregistrement de ce podcast est la suivante. On a des noms de sultans qui sont importants par rapport aux dynasties. On connaît toujours les têtes d'affiche des dynasties marocaines. Et quand on arrive aux Mérinides, on n'a pas de stars. On n'a pas le Moulay Ismaïl des Mérinides, on n'a pas Youssef Nsechfine, ou Yahya Khoum Mansour, Abd al-Moumen. Quand on s'intéresse à l'histoire de cette dynastie, on entend parler de Abou al-Hassan et de son fils Abou Aynan, qui ont été très importants, mais bizarrement, leur nom résonne moins fort dans notre tête, alors qu'ils ont un impact immense sur notre histoire. C'est pour ça que nous sommes avec le professeur Ahmed Tahiri, à l'INSAP, spécialiste des Mérinides, que nous avons convoqué, même si c'est nous qui sommes déplacés dans ces bureaux, et merci de nous recevoir, pour nous éclairer sur ces deux personnages. S'il vous plaît, merci d'être là. Quelle longue intro, c'était long.
Bonjour et bienvenue à l'INSAP. J'aurais bien aimé me déplacer à Casa, mais c'est plus difficile. La prochaine fois, Inch'Allah.
La prochaine fois, quand on fera leur père, Abou Saïd, le grand-père.
Inch'Allah.
Le grand-père.
Avec plaisir.
Alors, Abou al-Hassan, l'histoire le retient comme Sultan al-Khal déjà. Pourquoi Khal? C'est physique ou c'est...
Apparemment, c'est physique.
Ouais, donc sa maman est éthiopienne.
Voilà, d'après les données des historiens, sa mère est éthiopienne, donc min bilad al-Habasha. Apparemment, c'est à cause de ça. Donc, il avait un peu le teint noir.
Le teint noir. Et il règne en quelle année, Abou al-Hassan?
Alors, son règne a duré presque une vingtaine d'années. 1331 jusqu'à 1351.
D'accord.
C'est une période longue. C'est une période qui a connu des hauts et des bas, en fait. Hein. Donc, n'oublions pas que c'est l'apogée des Mérinides, hein, Abou al-Hassan. Je ne sais pas d'ailleurs, personnellement, et comme vous d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il n'a pas eu...
La reconnaissance de la patrie.
Exactement.
C'est vrai,
ça va. Une reconnaissance comme les autres. Hein. Quand on parle d'Abou al-Hassan, c'est un sultan qui avait un projet, qui est venu à le moment opportun. Malheureusement, il y avait des circonstances politiques, mais en même temps naturelles aussi. Hein. N'oublions pas que la fin de son règne va être marquée par la peste.
Bien sûr. C'est la grande peste qui a ravagé la Méditerranée.
Exactement.
Et qui a tué d'ailleurs les parents, je crois, d'Ibn Khaldoun.
D'Ibn Khaldoun.
Et un roi espagnol, enfin.
C'est la peste noire, quoi. Ah. Donc la grande peste qui a sévi dans la région méditerranéenne, qui a eu des conséquences néfastes sur la région d'une façon générale, politiquement, économiquement et socialement au niveau de la population. Donc pour revenir à Abou al-Hassan, il est fils d'une Éthiopienne. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'est pas le seul, en fait, à porter ce surnom de Sultan al-Khal. Il y a d'autres, hein, aussi bien avant lui qu'après.
Ah bon?
Yaqub al-Mansour al-Mouahidi aussi est qualifié parfois de Sultan al-Khal, son fils aussi.
Yaqub al-Mansour al-Mouahidi, c'est le vainqueur de
l'Arcos.
De l'Arcos, exactement. Vainqueur de l'Arcos et le fils de Youssef, petit-fils de Abd al-Moumen.
De Abd al-Moumen. Ouais. Son petit-fils, son fils, pardon, Nasser aussi, Mohamed Nasser, il est aussi décrit comme un souverain noir, Sultan al-Khal. Il y a Moulay Ismaïl aussi, hein, donc pour le teint, c'est toujours le teint. Mais ce qui est bizarre, c'est que ce surnom de Khal va être repris dans un certain nombre de légendes, d'accord, en rapport avec la nécropole dynastique fortifiée par Abou al-Hassan. Ah. C'est le Chala, la nécropole dynastique.
C'est lui qui construit ça.
C'est la deuxième. C'est lui qui va construire en fait la grande enceinte avec la coupole où il est enterré actuellement.
Lui-même, son mausolée. Lui-même,
de son vivant, il va construire une coupole où il va demander en fait qu'il soit enterré après sa mort. Et le Chala, il y a des légendes qui ont été rapportées par deux chercheurs français au début du XXe siècle qui ont consacré une monographie au Chala. Où les gens racontent en fait qu'ils parlent de Sultan al-Khal, ils parlent de l'Allah, etc. Donc toujours le personnage qui revient sous d'autres formes, un peu ethnographiques, un peu mythologiques, en rapport avec la nécropole dynastique des Mérinides.
vous avez dit, Abou al-Hassan, il a un projet. C'est quoi son projet?
Alors, Abou al-Hassan, c'est un émir, c'est un prince du palais mérinite qui va être intégré dans le projet mérinite alors qu'il était encore très jeune. N'oublions pas que...
Il était préparé pour le pouvoir.
On le préparait pour le pouvoir. Et c'est une façon, en fait, tout à fait différente par rapport aux autres. Si on compare un peu comment les sultans ont procédé, Abou al-Hassan, c'est lui qui était chargé des travaux des médersas, par exemple à Fès.
D'accord.
Le programme des médersas a été exécuté par Abou al-Hassan. D'accord. Alors que son père était encore sultan. Donc c'est son père qui l'a chargé en fait. Et nous avons des inscriptions, c'est attesté par de l'épigraphie, comme quoi c'est le sultan. Bien sûr, il y a aussi les sources historiques, le fameux Ibn Abi Zara dans son Al-Qirtas, qui dit en fait que tel madrasa, par exemple, madrasa al-Tarin, madrasa al-Sarij, qu'il qualifie de la grande académie, avec madrasa al-Sab'in, ont été édifiés où les travaux d'édification ont été supervisés par Abou al-Hassan alors qu'il était encore prince héritier. Ça, d'une part. D'autre part, avec Abou al-Hassan, on va assister à une dernière tentative, l'avant-dernière tentative de réunification du Maghreb.
Avec la Tunisie.
Avec la Tunisie. Puisque là, nous sommes vraiment début 14e siècle. C'est une période où la puissance aragonaise et castillane deviennent de plus en plus importantes. Donc, ils sont en train de reconquérir les territoires dans la partie nord. Ils commencent à s'ingérer même dans la partie sud du détroit. Et donc, Abou al-Hassan va essayer, au lieu d'aller faire la guerre sainte en Andalousie, il va essayer de s'orienter vers la partie orientale dans l'espoir de réunifier le Maghreb.
C'est le mariage.
Alors, voilà, l'astuce ou la ruse, l'idée, bon, pourquoi pas, ne pas passer par le mariage. C'est un mariage, donc
une alliance.
Une alliance, tout à fait, grâce au mariage. Donc, d'ailleurs, l'une de ses femmes est Hafsid, donc du palais des Hafsid en Tunisie. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, il va essayer de reconquérir l'Algérie actuelle. Il va prendre Tlemcen. Il va reconstruire la ville de Mansoura qui était construite juste à côté de Tlemcen.
Qui était le siège, en fait.
Le siège, exactement, du pouvoir. Et il va mener un raid en Tunisie. Et malheureusement, c'est là où les choses vont...
Mal se passer.
Vont mal se passer, exactement.
Alors, juste une petite question. Est-ce que c'est lui qui est dans la bataille de Rio Salado, c'est-à-dire Tarifa actuelle? C'est lui?
C'est lui.
C'est lui. Et si je ne me trompe pas, donc c'est la défaite de Rio Salado. Et je crois que ça... femme meurt dans cette bataille, non?
Alors, sa femme meurt et va être enterrée au Challah.
D'accord.
D'accord. Donc, il va être enterré au Challah.
J'ai oublié les détails, mais c'est une histoire incroyable, cette bataille, parce qu'il y a des Castillans qui sont infiltrés derrière les lignes mérinides, enfin bref.
C'est une période de... Donc là, les Castillans et les Aragonais ont réussi, en fait, à avoir des éléments qui sont attirés par le pouvoir, qui voulaient aussi le pouvoir. Donc, c'est la raison pour laquelle ils vont réussir à les attirer et donc qui vont jouer un rôle crucial dans ces défaites, aussi bien à Jazir al-Khadra qu'à Gibraltar, et qui va s'achever par la disparition, en fait, du pouvoir mérinide, tout simplement, de l'Andalousie. Donc, c'est vraiment la fin.
D'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce fameux voyage en Tunisie?
Alors, Abou al-Hassan va se préparer et il va organiser, en fait, un raid dans l'espoir d'unifier, comme j'ai dit tout à l'heure, les trois contrées constituant le Maghreb. Et malheureusement, il arrive en Tunisie. Il prend ou il occupe une grande partie, y compris Kairouan. Quelques mois après, il y a une révolte de tribus arabes. Donc, il va être attaqué par les tribus arabes et c'est une défaite. Donc, il va s'enfuir. C'est un bilan désastreux puisque les informations qui vont arriver suite à cette campagne qui a été entamée à partir de 1334... c'est-à-dire 3 ans après avoir pris le pouvoir, après avoir été intronisé en tant que sultan. L'opération va durer 3 ans, 1334-1337. Les informations qui vont être rapportées au Maroc parlaient du désastre. Certains auteurs même parlent d'informations concernant le décès en fait du sultan.
Le naufrage.
Naufrage. Et Abou Aynan, son fils, l'héritier, donc le prince héritier, qui occupait en fait le poste du calife en fait de son père, sur Tlemcen. D'accord ? Ben, il était le gouverneur du territoire de Tlemcen, va tout simplement se révolter contre son père. Et donc, Abul Hassan, en arrivant au Maroc, il sera obligé de mener une guerre contre son fils, Abu Aynan, qui s'est proclamé sultan des Mérinides sur le Maroc. Et bien sûr, après, il va prendre même le titre d'émir des croyants.
Donc, on a un Abu Hassan qu'on croit mort, ou qu'on peut-être fait semblant de croire mort, on ne sait pas très bien, et qui ressurgit au moment où son fils est sur le trône, même s'il n'existe pas de trône. Il va avoir une sorte de coup d'état, en fait, familial, on peut le dire.
Oui.
Voilà.
Oui.
Quand il voit son père n'est pas mort, il s'accroche au pouvoir.
Il s'accroche au pouvoir. Ça nous rappelle un peu l'histoire, la fameuse histoire de Youssef ibn Tashfin avec Abu Bakr.
Sauf qu'eux, Omar fait un mot.
Malheureusement, Abu Aynan apparemment n'a pas accepté en fait de restituer le pouvoir à son père. Et donc, il y aura une guerre entre père et fils, tout voilà. simplement.
Et je crois qu'il va se réfugier dans la montagne, Abu Hassan, non ?
Bon, il y aura plusieurs batailles entre père et fils. Et puis, Abu Hassan sera contraint de fuir. Il va se réfugier dans la région du Haut Atlas, chez les Haltata. D'accord ?
Les Almohad.
Les Almohad, ça nous rappelle en fait le rôle des Haltata avec les Almohad.
La chose drôle, si je peux vous permettre de vous couper, c'est qu'un certain Abu Hafs al-Hinsati, qui s'appelait Feska en fait, il est à l'origine, c'est qu'il y a un général al-Mouhad, est à l'origine des Hafsides de Tunisie.
Exactement.
Voilà, donc en fait, l'Hinsati, c'est un peu les cousins des Tunisiens.
C'est les cousins.
Plutôt le contraire, les Tunisiens, les cousins, bref.
Tout à fait, oui. Leur pouvoir va commencer en fait juste après la fameuse bataille de Las Navas de Tolosa, en 1212. 1220-1221, donc proclamation des Hafsides, avec la lignée qui était... Ils étaient en fait désignés comme gouverneurs des Almohades sur la Tunisie. Et donc ils vont s'autoproclamer...
Ouais, ils vont prendre leur sécession en fait. Ouais.
Exactement. Et donc ils vont fonder la dynastie des Hafsides en Tunisie qui va rester jusqu'à l'occupation, jusqu'à l'annexion de la Tunisie par les Ottomans au XVIe siècle.
Oui, ouais, c'est un bout d'Almohades qui va s'autonomiser. Ouais.
Voilà. Abul Hassan va se réfugier dans le Tatlash, il est un tata, mais son fils Abu Aynan n'est pas tranquille, il se sent toujours menacé, et donc il va suivre son père. Il va le traquer, exactement. Abul Hassan va être tué lors d'un combat entre pro-Abul Hassan et l'armée de son fils Abu Aynan. Il va être enterré à Marrakech. Nous avons toujours à Marrakech une inscription qui atteste l'enterrement d'Abu al-Hassan à Marrakech, 1351, il est enterré à Marrakech. Et après, sa dépouille va être rapatriée pour être enterrée à l'intérieur de la nécropole dynastique du Challah, le Ribat du Challah, qui a été la deuxième nécropole sultanienne des Mérinides.
La première, elle est où ?
La première, elle se situe juste à quelques kilomètres de Jorf el-Melha. Dans le Gharb, en fait.
D'accord.
C'est une localité qui s'appelle Ain Qarwash.
C'est une nécropole mérinide.
C'est la première nécropole mérinide, hein, où est enterré, d'après les sources, le premier sultan des Mérinides, Abd al-Haq, et l'un de ses fils qui ont été tués par les tribus arabes lors de l'une des premières batailles des Mérinides dans leur projet de pénétrer vers la plaine, en fait.
D'accord.
La troisième nécropole et celle d'Al-Qulla, qui est au nord de Fès, juste à côté du bastion nord à Fès.
Donc restons sur la nécropole du Shilla, qui est la plus connue, qui est la plus visitée. Donc en fait, Abu Aynan, il fait tuer son père.
Oui.
Mais il le ramène pour l'enterrer à Shilla.
Oui.
C'est bien ça, d'accord.
Oui.
Donc
voilà. Il sera tué, il va être enterré d'abord à Marrakech, comme j'ai dit tout à l'heure, et puis il va prendre la décision de rapatrier la dépouille plus tard. C'est pas le premier cas, ni le premier cas d'un conflit entre père et fils pour le pouvoir, ni le premier cas sur le fait de transporter, ou plutôt de déplacer, les dépouilles de personnes mortes dans des batailles ou autres, d'une région à une autre. Nous avons toujours au Challah les martyrs de la fameuse bataille de Tarifa, qui ont été rapatriés pour être enterrés ici même au Challah. Donc, il va rapatrier la dépouille de son père, l'enterrer dans la coupole funéraire qu'Aboul Hassan avait construit
pour lui,
de son vivant, pour lui, tout simplement. En même temps, il va sculpter, il va graver une inscription, une stèle funéraire, qu'il va mettre au-dessus de la tombe, où est gravé que, en fait, c'est la dépouille, ici, il repose la dépouille du sultan Aboul Hassan, tout simplement. D'accord ? Juste à côté des autres copoles de Shams Dha et de Umm Al-Izz qui font partie de la famille des Mérinides enterrés au Chalda.
Donc les femmes.
Des femmes, à côté d'Abou Yusuf Yaqub, qui est le fondateur de la nécropole.
D'accord.
Qui est décédé vers 1285-86.
D'accord, donc le règne de Abou Aïna est tranquille, donc on connaît la suite, c'est, il va être l'homme des Médersa, Yaqub. C'est Abou Aïnan, c'est lui.
Il va continuer le projet, en fait. Il va continuer le projet de ses prédécesseurs, puisqu'il va construire toutes les Bouanania, en fait. Oui, la Bouanania de Meknès, la Bouanania de Fès. Alors, certains auteurs même lui attribuent la Madrasa Al-Ajiba qui se trouve à Salé. Il construit une autre Bouanania, en fait, à Sabta. Abou Aïnan va aussi, sur cette question de mécénat, il va construire quelque chose qui est un peu spécial. Ce sont des Zawiyas. Alors, il va construire, d'après les sources, nous avons trois témoignages, une à Taza, une autre à Fès, et une autre à Salé, une quatrième à Sabta. Mais ce n'est pas des zawiyas liés à des confréries religieuses, mais c'est des sortes de centres d'hébergement à l'extérieur des villes pour que les nécessiteurs ou les voyageurs qui arrivent le soir et donc ils trouvent que déjà les portes des villes sont fermées, donc ils peuvent passer la nuit à l'intérieur de ces constructions, de ces zawiyas. Et le lendemain, le matin, quand les portes sont ouvertes, à ce moment-là, ils peuvent entrer directement pour éviter
qu'il y ait... Une sorte de refuge, quoi.
Une sorte de refuge.
Un centre d'hébergement.
Alors, Abou Aïnan va tenter aussi de réaliser le projet de son père. C'est quelque chose de contradictoire, mais bon, parce qu'il va essayer quand même de réunifier les trois contrées du Maghreb. Il va arriver même en Tunisie, dans son opération, mais échec total pour deux raisons. Révolte des tribus arabes qui ont saccagé Kairouan à tel point que la population de Kairouan a été obligée de réduire l'enceinte pour se protéger. Donc ils ont abandonné la grande enceinte pour construire une deuxième enceinte autour de Kairouan. Mais il y a aussi, à partir de 1352, la grande peste.
Bien sûr.
Donc,
ça a bloqué tous les projets. C'est intéressant, ça fait deux fois que vous parlez des tribus arabes. Là, vous venez de parler de Kairouan, et juste avant, vous avez parlé d'une tribu arabe dans le Harb, c'est ça ?
Oui.
Qui a assassiné le sultan, enfin, le grand-père.
Le grand-père.
C'est ça.
Le fondateur, en fait, de
voilà. Donc,
l'ancêtre.
C'est des, voilà, le Mérinide en chef, quoi.
Abdelhaq.
Ouais, le Mérinide original. Donc, en fait, ces tribus arabes, on parle de tribus hilaliennes.
C'est des tribus hilaliennes.
Donc c'est intéressant de voir le rôle politique qu'ils jouent. On sait quand est-ce qu'ils sont venus, on sait qu'il y a eu des troubles, on sait qu'il y a eu des frictions. On sait même que le sultan Al-Muhad Yaqub avait presque même regretté de les avoir intégrés dans son armée. Mais on a très peu de détails sur la nature des troubles. Là, vous venez d'en donner deux.
C'est normal, puisque ces populations, on le sait bien, fin du XIIe siècle, ils arrivent en fait un peu partout pour s'installer au niveau des plaines. Donc c'est des zones... très fertile.
Mais c'est des nomades.
Des nomades. Alors, est-ce qu'ils étaient à ce moment-là encore des nomades ou ils sont devenus des semi-nomades ? Parce que n'oublions pas que jusqu'au début du XXe siècle, toute cette région comprise entre l'Edkala jusqu'à la région de l'Arrache était en grande partie, ce qu'on appelle maintenant le Gharb, Locos et Edkala, était occupée par des semi-nomades. Donc, des semi-nomades qui se déplaçaient en fonction des saisons. Et donc, des zones très fertiles, et les Mérinides, avec leur ancêtre Abdelhaq, qui étaient des nomades, mais dans la partie orientale, entre Oujda et Sijil Massa. Ils découvrent un monde tout à fait différent, fertile, avec des richesses, etc. Donc, l'incursion vers les plaines, et il y a une confrontation, tout simplement.
Moi, j'ai une question. On parle de tribus arabes dans le Harb.
Oui.
C'est bien ça. Aujourd'hui, ce que le Marocain, je ne sais pas méprisant ce que je dis, appelle l'Aroubi.
Oui.
L'Aroubi, c'est lui en fait, c'est les tribus arabes du Harb. C'est possible même qu'on peut dire que c'est-à-dire quand on dit Aroubi, il y a Arbi déjà, et il y a paysan.
Il y a le paysan.
Donc géographiquement, ça colle. Est-ce que l'Aroubi est cet arabe-là ? Je pose la question, je ne sais pas.
C'est possible, c'est possible. Il faut juste distinguer entre comment le citadin, Parce que n'oublions pas qu'il y a une dichotomie un peu au niveau de la population marocaine, c'est que citadin par rapport à Roby, hein, d'accord.
Oui, mais quand je dis Roby, c'est pas un jugement. C'est lui-même, il se dit un Roby. C'est quand quelqu'un se dit un Roby, c'est qui? C'est quelqu'un qui est près de la terre et près de l'Atlantique. Voilà.
C'est vrai.
Et qui n'est pas amazérophone.
C'est vrai.
Et quand on ramasse les trois critères, c'est-à-dire non-amazérophone, près de l'Atlantique et près de la Terre, eh bien on arrive peut-être aux zones d'installation de ces tribus.
Et il y a aussi cette... c'est l'Ekna, en fait. La manière de prononcer, en fait, de parler, c'est une spécificité de cette région. C'est ça qui fait que j'ai des doutes sur la question. Quand on prend les Dukala, qui sont des Amazirs, en fait, d'origine arabisée, et quand on compare les populations de Dukala avec la zone d'Yal Habt al-Gharb, etc., donc la région d'Yal Sidi Yahya al-Gharb, etc., donc il y a des similitudes. Alors que là, Banu Hilal ou Banu Maqil, etc., ici, c'est des tribus amazirs arabisées.
D'accord.
Mais la question de Arabie peut renvoyer à des tribus arabes. D'accord. Donc, je disais que ces populations débarquent dans la région. Et il fallait défendre en fait leur territoire, parce que c'était le territoire, il est resté d'ailleurs le territoire des tribus. Et ces Arabes, ces tribus arabes, vont rentrer en confrontation avec les Mérinides pendant une longue période, avant de devenir en fait, avant de les intégrer dans l'armée des Mérinides, comme était le cas avec les Almohades, tout simplement. D'accord. C'est une manière de les domestiquer, tout simplement.
Bien sûr.
Et bien sûr, de tirer profit des richesses et des moyens dont ils disposaient aussi, parce qu'il fallait mobiliser quand même des hommes pour la guerre, d'une façon générale, ayant les moyens, donc ayant des chevaux, etc., donc, qui vont permettre en fait de mobiliser toute une armée. Quoi.
C'est une petite parenthèse sur les tribus arabes qui sont un élément politique important de la période. Si on revient à Abu Aynan, il a pris le pouvoir par la violence et il va mourir dans la violence, puisque d'après ce que j'ai lu, il est assassiné en son hammam. C'est bien vrai?
Tout à fait.
C'est terrible.
C'est la décadence, d'accord. Il y a des prétendants au pouvoir, il y a des conflits à l'intérieur du palais, et donc effectivement, Abu Aynan va être étranglé par l'un de ses proches au palais de Fès, tout simplement, et il va être enterré. Ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. Il ne sera pas enterré dans la nécropole ou à l'intérieur de la nécropole dynastique, qui est le Qulla à Fès à l'époque, parce que ça y est, Challah est abandonné parce que... Non, c'est pas complet, mais abandonné parce qu'il n'avait plus les moyens d'assurer
le maintien.
Tout simplement le maintien et en même temps la protection, parce que c'est quelque chose de très important. Et Abu Aynan sera enterré à l'intérieur de la mosquée de son palais. D'accord ? C'est la grande mosquée de Fès Jadid.
D'accord.
Dans une petite coupole construite juste à côté du mur de la Qibla. C'est là où nous avons encore sa tombe et d'autres tombes de la famille des Mérinides, les derniers Mérinides, sans inscription, sans stèle funéraire, comme c'est la coutume pour les princes et les princesses de la dynastie.
C'est-à-dire qu'il a été enterré anonymement, vous voulez dire?
Alors, enterré, d'après les sources, qu'il est enterré ici, dans la grande mosquée de Fès Jadid, Jam el-Kbir, Fès Jadid, il y a la tombe, mais il y a une stèle funéraire anépigraphique, stèle en marbre, mais sans sculpture de texte qui renvoie ou qui rapporte qu'il s'agit en fait de la tombe d'Abu Aynan, tout simplement.
Alors, dans la foulée, on va basculer dans le chaos, si je résume, vous me dites si j'ai raison ou tort, mais on va avoir une succession de violences, de régences, dans des moments complètement absurdes. Je crois qu'il y a un enfant qui est régent. La fin est catastrophique.
La fin est catastrophique, c'est vrai. Nous allons avoir des princes, donc des jeunes princes de 8 ans, 10 ans, qui vont être tout simplement intronisés.
Même un handicapé mental, je pense. Il y a un handicapé.
Alors,
dans
le... Ouais. Il y a une excellente étude qui a été faite par Sir Qabli, sur les Mérinides, d'ailleurs c'est l'une des références sur les Mérinides. Et effectivement, la décadence totale, la chute, et on va avoir en fait des personnalités travaillant auparavant pour les Mérinides qui vont en fait assurer ou qui vont se charger ou qui vont réussir à introniser des personnes, tuer d'autres, etc. C'est une période qui va durer quand même presque un siècle, d'accord ? C'est l'interrègne où on va avoir un Maroc qui va souffrir et qui va aboutir en fait à partir de 1410-1415, débarquement,
perte de Ceuta,
perte de Tétouan et puis perte d'autres villes sur la côte atlantique. Donc c'est le débarquement tout simplement des armées tout au long de la côte méditerranéenne et atlantique du Maroc.
Voilà, et on va se retrouver avec une côte espagnole et une côte portugaise jusqu'à l'arrivée des Saadiens. Voilà, parce que même les Wattassides, qui sont un peu, si j'ai bien compris, les Wattassides, qui sont un peu l'administration mérinite,
oui,
ne vont pas. C'est une constante, si j'ai bien compris l'histoire du Maroc, c'est que les dynasties se font et se défont en fonction de leur capacité à défendre le territoire. C'est-à-dire, les Saadiens vont récupérer le pouvoir en chassant les Portugais d'Agadir, etc.,
exactement,
de Esfi, etc. Donc voilà, c'était la fin des Mérinites. Comme ça,
la fin des Mérinites.
La fin des Mérinites.
Les Wattassides.
Dans une ambiance de violence, d'intrigue, ouais.
C'est une période de...
Un siècle de troubles, quoi.
De troubles.
Mais longue, hein.
Ben oui, quand on compare à cette période de troubles avec la durée de la dynastie des Almohades, c'est quoi, c'est la dynastie des Almohades, c'est à peu près 1147 jusqu'à 1269. Hein, c'est à peu près 110 ans,
ouais,
un siècle et 10 ans. Or, cette période de décadence, ce problème d'anarchie, disons-le, cette période d'intrigue va durer presque un siècle.
C'est très long. C'est très long parce qu'il y a d'autres périodes de troubles de tête. On a en tête le moment après la mort de Ahmed al-Mansour, le Saadien, ou après la mort de Moulay Ismail, le Alaouite, qui a donné des guerres de succession entre les enfants. C'est à peu près la même chose. On est dans 30 ans. On est dans 100 ans.
Presque 100 ans.
Eh bien, merci beaucoup pour ces éclaircissements.
Je vous en prie.
Sur cette période mérinite très riche, très riche, très riche. Et à chaque fois qu'on se plonge dedans, on est frappé par à quel point elle est importante dans le Maroc d'aujourd'hui, ou fin du 21e siècle, du 20e siècle, dans le sens où énormément de choses importantes ont été décidées ou entamées à ce moment-là. Merci beaucoup.
Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.
Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom.
Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.